Bonjour à tous, installez-vous confortablement, c'est Sporama sur VOA Afrique. Comme chaque semaine dans votre émission, les résultats, les analyses et vos commentaires, chers auditeurs, sur la page Facebook de VOA Afrique. Et nous attendons vos appels en direct dans cette émission. Pour ceux, composez le 001 202 619 31 40, je répète, 001 202 619 31 40. Alors peut-être avec nous ce soir, si les lignes le permettent, à Libreville, Jules Valentin Ngwe, et puis peut-être à Kinshasa, Thierry Kabundi Kafuti, et puis depuis Rio, notre envoyé, l'un des envoyés spéciaux de VOA, Alvaro Andrade. Alors on va commencer par quelques résultats de la Champions League, c'est du football bien entendu. À Monaco, on s'est incliné 2-1 face à la Turquie, face au Fenerbahçe qui a gagné grâce à un doublé d'Eminöke au troisième tour préliminaire aller de la Ligue des Champions, c'était le mercredi 27 juillet. À Astana, c'est le Celtic qui a été sauvé d'une nouvelle désillusion face à l'Astana de Yuri Logvinenko avec un score de 1-1, égalité donc. Et au Pirée, le multiple champion de Grèce, l'Olympiakos, n'a jamais réussi à tromper la défense bien regroupée des Israéliens d'Apoel Beersheva avec un score de 0-0 au cours d'un match assez viril. Il faut savoir que pendant ce match, il y a eu au moins 6 cartons jaunes de distribués par les arbitres. Et puis mardi, c'était au tour de l'Ajax d'Amsterdam qui a arraché le match nul 1-1 devant les Grecs du PAOK Salonique avec, après avoir été mené pendant une demi-heure alors que le Shakhtar Donetsk, lui, avait déjà fait un pas vers les barrages en leur portant 2-0 devant les Young Boys Berns. Les matchs retour auront lieu les 2 et 3 août, donc restez devant vos écrans pour pouvoir suivre la suite. On va peut-être essayer de se diriger vers Kinshasa avec l'un de nos auditeurs. Alors, on me signale qu'on a Thierry. On va quand même prendre la direction de Kinshasa. Kinshasa, où nous retrouvons Thierry Kabundi. Bonjour, bonsoir Thierry.
Bonsoir à vous et à tous les auditeurs de VOA Afrique.
Alors Thierry, nous avons commencé avec la Champions League. Si vous avez suivi un petit peu les matchs de la fin de semaine dernière, est-ce que vous avez retenu un match en particulier ?
Allô ?
Thierry, est-ce que vous êtes en ligne avec nous ?
Oui.
Alors Thierry, on a commencé cette émission avec les matchs de la Champions League et je voulais savoir quel résultat en particulier vous avez retenu. Est-ce que c'était plutôt la défaite de Monaco face au Fenerbahçe ou plutôt l'Olympiakos qui a fait match nul face aux Israéliens?
Ah, vous parlez de la Champions League de l'UEFA, en fait. Justement, j'ai retenu la défaite de Monaco face aux Turcs de Fenerbahçe parce que j'avais intérêt à suivre de manière particulière ce match, d'autant plus qu'il y a un jeune gardien de but congolais du nom de Loïc Badiachil et qui faisait ses débuts à l'âge de 18 ans dans la cage de l'AS Monaco. Malheureusement, il a remplacé le titulaire à la 12e minute et ça ne lui a pas porté chance puisqu'il a encaissé les deux buts qui ont permis pour l'instant aux Turcs de Fenerbahçe de prendre une avance. Mais le club de Monaco a toutes ses chances suite à ce but marqué par Falcao à l'extérieur de s'imposer extérieur et de passer ce tour.
Alors il faudra voir si au match retour le 2 ou le 3 août il fera partie de la liste des joueurs en lice.
Il fera partie de la liste parce que le gardien titulaire s'est blessé pour un mois et c'est un jeune Congolais qui est issu d'une très très grande famille des sportifs. Son oncle qui vit ici à Kinshasa est le secrétaire général du comité olympique congolais et il a une série de sportifs dans sa famille. Et lui, Loïc Badiachil, qui vient à peine de sortir du centre de formation de Monaco, et son jeune frère sont également l'avenir de cette formation de Monaco et on était très très fiers de le suivre avec cette formation de la Rochère.
Alors l'autre match, ça a été l'Ajax Amsterdam qui a fait un nul face à Salonique. C'est un match que vous avez surveillé aussi ?
J'ai vu le résumé du match, c'est vrai que l'Ajax n'est pas habitué à être retrouvé à ce stade et l'Ajax a connu une contre-performance. Mais je comprends un tout petit peu, hein, parce qu'il ne faut pas oublier que nous sommes en début de saison. Les équipes viennent à peine d'entamer la préparation. En tout cas, ce n'est pas encore parfait, hein, dans les automatismes. Ce n'est pas encore parfait. On est dans la phase de recrutement aussi. Mais je pense qu'au match retour, l'Ajax d'Amsterdam, qui a une histoire en Champions League, va réussir à se réduire.
Alors, on va prendre la direction avec vous, Thierry, de la quatrième journée de la Coupe des Confédérations africaines. Alors, je vais donner très rapidement les résultats de la quatrième journée. Le FSU Rabat a infligé un score de 3-1 à Marrakech. Ensuite, le tout-puissant Mazembe, dont vous nous donnerez des nouvelles tout à l'heure, s'est imposé, lui, 1-0 face au MO Béjaïa. Et puis, Al-Hatali de Tripoli, lui, s'est incliné 0-1 face à l'Étoile du Sahel. Et enfin, la Madeama bat 3-1 les Young Africans. Thierry, on revient un petit peu sur cette victoire du tout-puissant Mazembe.
Oui, justement, hein, victoire très attendue, même si elle a eu difficile à se décider face à une formation qui avait accroché Mazembe à l'aller, on se rappelle, 0-0 face à la formation qui était le principal concurrent du tout-puissant Mazembe dans ce groupe, sans pour autant faire offense à Medema du Ghana ou encore à Young Africans de la Tanzanie. Avant ce match, Mazembe comptait 7 points, Béjaïa en comptait 5. Il fallait absolument que les Corbeaux l'emportent à domicile pour se qualifier pratiquement pour les demi-finales. Ils l'ont fait grâce à un grand Renford Kalaba, le maestro de cette formation de Mazembe. La victoire a eu du mal à se dessiner parce que la formation de Béjaïa a géré, plié. Et c'était très difficile de percer le mur des Algériens. Mais les Corbeaux ont réussi à le faire peu après l'heure de jeu. Et c'était pour le bonheur de tous les Congolais, particulièrement des Noirs et Blancs de Mazembe. Mazembe qui survole pratiquement ce groupe. Il compte 10 points, 5 d'avance sur ses poursuivants directs. Le deuxième de ce groupe A, c'est Béjaïa qui compte 5 points. Puis suit Medema du Ghana qui en compte également 5 et Young Africa. Quand Mazembe va affronter en clôture de groupe à force petit point, donc les Corbeaux sont bien partis pour atteindre la finale de cette Coupe des Africains.
Alors la ligne se dégrade, Thierry, malheureusement. Thierry, si vous nous entendez, la ligne se dégrade un peu. Alors du coup, on va prendre la direction de Libreville où nous attend Jules Valentin Ngoué. Bonsoir, Jules.
Bonsoir à tous.
Jules, vous avez entendu, on était en train de discuter de cette victoire du tout-puissant Mazembe, une victoire qui a été un petit peu difficile puisque la défense algérienne a été assez forte.
Oui, mais le Mazembe confirme quand même son statut de favori parce que c'est une équipe qui nous revient de la Ligue des Champions et pour elle, c'est un exercice de rattrapage. Et donc, dans ce contexte, quand on sait que Mazembe, surtout, a des problèmes à travers son président MSN, qui à l'heure actuelle donc, a une situation sociopolitique un peu difficile. Donc, on comprend que c'est juste le professionnalisme de Mazembe qui lui permet de se maintenir et de tenir le cap.
Mais est-ce que les Algériens n'étaient pas...
Cette grande équipe va nous donner des résultats.
Mais Jules, est-ce que justement cette équipe algérienne aussi n'était pas à la hauteur?
Oui, mais bien sûr. Les équipes du Maghreb ont une avance sur les équipes au sud du Sahara. Elles sont très bien organisées. C'est disons que des 10 ans de pratiquement de différence qu'on a. Bon, donc, et au sud du Sahara, nous avons des rares équipes comme Mazembe qui arrivent à leur tenir tête, ou bien Orlando Pirates en Afrique du Sud. Bon, alors donc, ce n'est qu'un mérite supplémentaire pour Mazembe de pouvoir tenir tête ou alors pouvoir passer devant de telles équipes.
En tout cas, on a vu que la défense algérienne, comme beaucoup d'équipes du Maghreb, était plus que organisée. Ça fait un petit peu penser à l'équipe égyptienne à une époque qui avait une défense très solide comme ça et où les buteurs avaient du mal justement à percer. On va tout de suite prendre une réaction qui a été recueillie justement par Thierry Kabundi Kafouti. C'est une réaction de Hubert Velou, le coach du Mazembe, justement, après la victoire 1-0 mercredi dernier. Écoutez-le.
Première mi-temps correcte, mais un peu de lenteur dans certaines transmissions de balles, dans le jeu collectif. C'était un match difficile parce que le mob nous a laissé très très peu d'espace, très regroupé, ils ont bien défendu. Mais on a trouvé la faille à un moment donné où justement ils nous ont laissé un peu d'espace sur un contre de notre part. Bon, nous on sent qu'on a des joueurs à tout moment, s'il y a un peu d'espace, on peut faire la différence, c'est ce qui s'est passé sur le but. Mais bon, c'est vrai qu'à domicile, on voudrait faire des différences plus grandes, notamment au niveau du jeu, au niveau de l'efficacité offensive. On doit encore progresser à domicile alors qu'on se montre en général plus solide à l'extérieur. Tout le monde a fait son travail avec un très grand état d'esprit. Je suis content pour le groupe. C'est une qualification, on a été la chercher. On est vraiment sur une bonne dynamique positive. Et par rapport au match de Médéamin, on veut surtout pas se relâcher. La première place est très importante dans le groupe. On connaît l'importance de l'ordre des matchs aller-retour en demi-finale ou si Dieu le veut en finale. On fera tout pour finir premier du groupe.
Alors justement, pour finir premier du groupe, il va falloir encore travailler. C'est ce que le coach dit. Il y a une réaction sur la page Facebook de VOA Afrique de Maïvanga Alonso Castré. Il dit « Félicitations au tout-puissant Mazembe pour la qualification en demi-finale de la CAF et bonne chance à tous nos athlètes africains », dit-il. Il s'appelle Cédric. Jules, je vais revenir vers vous. Une réaction à ce petit rapport du coach, de l'entraîneur justement du Mazembe qui reconnaît que ça a été un match difficile, mais qu'à domicile, il ne faut pas céder.
Mais bien sûr, parce que là, c'est des calculs d'épicier. Et quand on est à ce niveau de la compétition, ce sont les détails qui font la différence. Et finalement, face aux équipes d'Afrique du Nord qui sont très rationnelles et organisées pratiquement à la, disons que, qui nous donnent un peu le schéma des équipes européennes, et il faut faire la différence sur un détail. Et c'est ce que l'entraîneur de Mazembe a avoué. Et ma foi, l'essentiel surtout, c'était la qualification et non le classement.
Alors, on va prendre la route de Kinshasa encore une fois avec Peter Bitek. Peter, est-ce que vous êtes en ligne avec nous ?
Oui, je vous suis parfaitement.
Bonsoir, Peter. Qu'est-ce que vous avez retenu de ce match, justement, entre le tout-puissant Mazembe et le Béjaïa ?
Merci beaucoup. Je pense que le match se joue pour gagner et c'est le meilleur qui gagne, bien que les équipes de Maghrébiens sont un peu plus fortes et plus organisées. Mais je crois aussi que l'équipe de Mazembe est aussi organisée. Ils ont beaucoup remporté le coupe et tout. Donc ils sont capables. Seulement, il faut jouer pour gagner, quoi.
Merci, Peter. Restez avec nous en ligne. On va continuer. On va prendre la direction du foot du Sénégal pour toujours parler football, notamment avec la Coupe du Sénégal. Alors, Niari Itali a remporté sa première Coupe du Sénégal de l'histoire. C'était samedi dernier au stade Léopold Sédar Senghor. Il a dominé largement le Casasport avec un score de 3-0. Et en tout cas, l'ambiance était extraordinaire. Écoutez.
De l'ambiance, du fair play et des buts, il y en avait samedi dernier au stade Léopold Sédar Senghor lors de la finale de la Coupe du Sénégal remportée par Niari Itali. En effet, les Galactiques ont inscrit leur nom au palmarès pour la première fois de l'histoire en humiliant le Casasport sur la marque de 3-0. Les hommes du président Djibril Ouad ont fait craquer les verts et blancs lors des 10 dernières minutes. Abdoulaye Ba a inscrit non seulement 2 buts, mais il a délivré une passe décisive. Le héros de cette finale laisse éclater sa joie.
Tonda, mais ça ne me souvient pas, ça ne me souvient pas. À force de travail, je travaille tous les jours, trop dur. C'est dans les grands, mais on connaît les grands joueurs. Ça vous dit, c'était une finale, c'était une occasion à ne pas arriver. J'ai réussi à le saisir et nous avons remporté la coupe.
Pour le coach adjoint du CAS Sport, Ibou Diarra, ces poulains ont donné tout simplement le couteau à l'adversaire.
En 10 minutes, on a donné le couteau à l'adversaire et on est abattu. Quand on reste presque un mois sans compétir, je crois qu'il y a beaucoup de choses qui comptent. Donc pendant 15 jours sans compétition, en 15 jours on va préparer une finale, c'est difficile. Donc les automatismes, tout cela on les perd.
Après cette belle victoire, les supporters de Niaritari peuvent laisser éclater leur joie.
C'était un reportage plein de couleurs de Ahmedine Sy à Dakar, où on suit la Coupe du Sénégal. On termine cette page football avec ce nouveau deuil, malheureusement pour le football africain, la mort de l'international congolais Destin Onka Malonga. Il était gardien de but à Alès, en France. Il est mort dans un accident lors d'une sortie en canoë avec son club. Il était né à Brazzaville. Malonga avait 28 ans et il avait remporté la CAN des moins de 20 ans avec son pays en 2007. Jules, est-ce que vous vous souvenez de ce gardien de but?
C'est un gardien de but prometteur et vraiment ça nous fait un pincement au cœur quand on sait que dans les années 90, disons que 80-90, les gardiens de but africains n'étaient pas particulièrement appréciés en Europe. Il a fallu qu'on ait la sortie de Joseph Antoine Bell et de Thomas Kono et au plus haut niveau pour qu'on commence à faire appel aux gardiens africains. Donc, Malonga faisait partie de cette génération de gardiens qui pouvaient faire honneur au football africain. Et donc, c'est un sentiment de désolation que nous avons tous avec ce décès.
Thierry, vous êtes toujours avec nous depuis Kinshasa. Vous avez, vous aussi, sans doute appris le décès de ce jeune gardien de but?
Oui, nouvelle triste, parce que j'ai eu à suivre à l'époque la CAN U20 remportée par le Congo Brazzaville. Et ce garçon faisait partie de cette génération qui avait remporté ce trophée au niveau des jeunes diablotins et faisait partie de ces jeunes conduits à un bel avenir. Malheureusement, on n'a pas réussi à s'imposer en Europe. Il est passé par plusieurs clubs en division inférieure et malheureusement il a connu cet accident. C'est vraiment une triste nouvelle qui endeuille une nouvelle fois le football africain en général et du Congo Brazzaville en particulier. Une pensée en tout cas pour sa famille.
Merci Thierry et une pensée aussi de la part de toute l'équipe de VO Afrique et de Sportama. Vous êtes toujours dans Sportama, on prend la direction du Bénin où la phase finale du championnat national de Maracana s'est déroulée à Boïkon. C'est la première fois que cette compétition a été organisée hors de Cotonou. Le point avec Élisée Ongpatine.
Ils sont au total 17 clubs à prendre part à ce championnat national de Maracana. 17 équipes donc réparties en 3 catégories, 4 chez les vétérans, 7 au niveau des seniors et 6 équipes du côté des Open. Les vétérans, c'est-à-dire plus de 45 ans, avec les seniors, c'est à partir de 35 jusqu'à 45 ans. Et puis chez les Open, c'est moins de 35 ans. Cette catégorie qui a sa toute première participation à une phase finale de ce championnat de Maracana. Un défi bien relevé selon Mathias Kombou, secrétaire général de la Fédération béninoise du Maracana.
C'est un sport qui ne demande pas beaucoup de moyens, c'est un sport qui ne demande pas beaucoup d'énergie, c'est un sport populaire et nous allons faire venir le Maracana dans tous les coins du pays. C'est le credo de la Fédération béninoise du Maracana parce que c'est un nouveau sport. Il faudrait que ça aille vers les populations pour que les populations comprennent ce que c'est que le Maracana. Nous prions tous ceux qui peuvent aider cette discipline à grandir que nous allons essayer de faire ce que nous devons faire pour que la discipline devienne une discipline populaire d'ici 5 ans et que nous ayons peut-être au moins 3 millions de pratiquants.
Et à l'issue des 2 jours de compétition intense et enchaînée, c'est l'équipe de Rafale qui s'est le plus distinguée en remportant le championnat tant chez les vétérans que chez les Open. Au niveau des seniors, La compétition est plus disputée et a vu MCA sortir vainqueur de son duel contre Abam. La déception est du côté de l'équipe de Boycon Elite Maracana Club qui est arrivée à la dernière place chez les seniors et au niveau des Open. Satisfaction tout de même chez les vétérans qui ont terminé à la deuxième place. On retrouve le secrétaire général de la fédération qui revient sur cette édition de 2016 de ce championnat national de Maracana. Mathias Kumbu.
Tout s'est bien passé sur tous les plans. Nous n'avons pas connu d'incident majeur. Chez les Open, c'est l'équipe de Rafal de Rivier, pour la première fois d'ailleurs que nous lançons cette compétition. Ce sont eux qui ont gagné. Chez les seniors, MC et les dissidents d'Abam ont dominé la compétition de bout en bout et ont pris le trophée. Chez les vétérans, c'est l'équipe de Rafal de Rivier qui a succédé à elle-même. Et je pense que nous avons eu des révélations. L'équipe de Paubet nous a surpris à plus d'un titre. L'équipe est venue avec de bonnes intentions, avec de bons joueurs. Et au niveau des seniors, nous avons vu de nouveaux joueurs.
Le ministre des Sports présent n'a ménagé aucun effort pour féliciter cette fédération. Oswald Homeki.
Quand une fédération fait déjà ce que le gouvernement veut faire, c'est une très très bonne chose. Je vois ici des gens qui nous ont fait rêver quand on était dans les tribunes. Des gens qui, quand ils jouaient, remplissaient le stade. Je me souviens que pour avoir la place au stade, quand vous avez un certain âge, si votre papa ne vous amène pas, vous ne pouvez pas entrer. Parce qu'on dit, il y a trop de monde. Aujourd'hui, même quand c'est gratuit, il n'y a personne au stade. Donc nous avons le devoir de créer encore cette ferveur, cette flamme qui animait chacun de nous il y a quelques années. Et c'est vraiment ce que vous êtes en train de faire qui va redonner confiance aux Béninois et qui va leur permettre de retourner au stade, de savoir que le sport peut vivre dans notre pays.
Des joueurs ont été sélectionnés à la fin du championnat pour prendre part à un stage de préparation vendredi prochain en vue de la CAN de cette discipline qui aura lieu à Ouagadougou en septembre prochain. Boycon, Élisée Rumpatine, VOA Afrique.
Dans Sporama avec vous Tatiana Mosso, on ouvre notre page Jeux Olympiques. J-4 avant la cérémonie d'ouverture, les Jeux Olympiques 2016 au Brésil qui auront lieu du 5 au 31 août. On retrouve en direct depuis Rio de Janeiro l'un des envoyés spéciaux de VOA, Alvaro Andrade. Bonsoir ou bon dia, comment on dit?
Bonsoir.
Oui, on vous entend. On voulait savoir justement quelle est l'ambiance sur place à moins d'une semaine de la cérémonie d'ouverture.
Il y a la sécurité serrée autour du Rio de Janeiro. Il y a une épargne de ferrée avec le travail, en particulier les journalistes. Les athlètes arrivant chaque jour à travers le monde. Nous commençons à attendre les principales étoiles. Comme hier, le joueur de tennis espagnol Rafael Nadal. Certaines délégations africaines également portent encore à juger dans son université. Mais le village olympique a plus de 7 000, 15 000 participants déjà là-bas. La pluie est belle, pour les couleurs des Jeux de Rio.
Donc tout est prêt.
Avec beaucoup de sympathie.
Donc tout est prêt, toutes les installations sont prêtes, tout est terminé.
Non, ce n'est pas terminé. L'autorité parle en 10% pour terminer. Mais la dernière
Malheureusement, la ligne n'est pas de très bonne qualité. Alvaro, on a du mal à vous entendre. On va essayer de vous reprendre. Thierry, est-ce que vous êtes toujours avec nous depuis Kinshasa?
Je suis là.
Thierry, on a du mal avec Rio de Janeiro, donc on se dirige vers Kinshasa. Thierry, on sait qu'il y a plusieurs athlètes africains qui vont participer à ces Jeux Olympiques. Vous serez sur place d'ici 2 jours. De qui se compose la délégation en RDC, par exemple?
Écoutez, la première partie de la délégation congolaise a quitté Kinshasa samedi pour Rio via Brazzaville. Elle est arrivée aujourd'hui à Rio et a déjà pris ses quartiers. Elle est composée de 10 personnes, notamment 4 athlètes qualifiés, 2 en athlétisme, 1 taekwondoïste et 1 judoka. Les autres, les 4 qualifiés, c'est-à-dire les paralympiques, ainsi que le reste de la délégation, devraient rejoindre Rio dans les prochaines heures, dans 2 jours, comme vous l'avez dit. Avec quelle chance? Écoutez, la délégation de la RDC s'est préparée ici, essentiellement à Kinshasa, avec les moyens de bord. Chacune des fédérations a essayé de faire le nécessaire pour présenter les athlètes dans leurs meilleures conditions. Les athlètes, Dieu merci, Makoro Bondo est allé se préparer en Afrique de l'Ouest. Il a dit espérer, en tout cas, au niveau du fond, essayer d'engranger la première médaille olympique de la RDC, qui n'a jamais arraché de médaille olympique, mais ça sera difficile. En dernière minute, les athlètes congolais qui devaient être en stage à La Havane, à Cuba, pour parfaire leur préparation avant d'aller à Rio. Ce stage a été annulé faute de moyens. Le gouvernement congolais n'a pas pu disponibiliser l'argent nécessaire pour cette préparation. Donc c'est difficile, c'est dans ces conditions-là. La taille même de la délégation a été réduite sensiblement. C'est très très compliqué pour la délégation.
Merci Thierry pour ces détails justement. Et concernant les chances africaines qui sont minces au regard des JO de la Chine, c'est en tout cas ce que Alphonse Boaki nous dit. Alphonse Boaki que nous avons en ligne depuis la RDC justement. Alphonse Boaki, bonsoir.
Bonsoir Tatiana Monceau, je pense que c'est la ligne de bord, vous m'entendez bien.
Monsieur Alphonse Boaki, on vous entend vraiment de très loin. En tout cas, je disais que vous disiez que les chances africaines sont minces au regard des JO de la Chine, mais il ne faut pas exclure le facteur chance ou le sport sur le terrain distinct des critères sur papier. On retourne à Rio de Janeiro avec l'un de nos envoyés spéciaux, Alvaro. Rebonsoir. J'espère que cette fois-ci la ligne tient un peu. Je voulais revenir avec vous sur les grands absents de ces JO de 2016. On annonce déjà que ce sont les derniers jeux de Michael Phelps. Parmi les grands absents, on a également Izimbayeva au saut à la perche, ou encore Stepanova qui ont été recalés, ou encore Federer qui est blessé. Est-ce que il reste encore des grandes stars d'annoncer pour ces Jeux Olympiques?
Je ne t'écoute très bien. Proposer la question
Alvaro,
la connexion, c'est pas bon.
Alvaro, malheureusement, la connexion est très mauvaise. On va retourner du côté de Kinshasa avec Peter Bitek qui disait « Je vais soutenir le judoka congolais qui a coulé des larmes lors de l'interview à Kinshasa dans sa commune Barumbu. Nous l'avons surnommé Terminator. Est-ce que nous avons Peter ?» En tout cas, c'est déjà la fin de cette émission. Merci beaucoup d'avoir été avec nous dans Sporama. À très bientôt pour la suite.